beau Willy, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
Presque midi, pile poil, dans 15 secondes, Danny Gravel qui vient d'arriver en studio. Il ressemble curieusement à Jeffrey Dahmer.
Ah! Faudrait faire un sondage plus à Marc-André Grondin quand il y a sa calotte, à Ricardo Troggi. Dahmer, je comprends pas, je trouve ça raide.
Il y en a qui me comparent à Heisenberg dans la série Breaking Bad. Ben on m'a demandé si j'avais parti une shop de cristal meth à la maison.
It's time to go.
Mais honnêtement, ce sont de belles lunettes. T'as osé un look. Oui. Qui t'a conseillé?
C'est ma blonde qui a choisi les montures. Puis, quand elle les a mis sur ma tête, je me suis dit, bon, ben celle-là, c'est sûr qu'elle les prend pas. Et on a essayé deux, trois autres affaires, okay. Puis elle a dit, ben c'est première. Je l'ai regardé, j'ai dit, t'es sérieuse? Tu veux vraiment que j'aille de l'air d'un tueur en série?
Mais non.
Puis là, elle m'a expliqué les affaires de grosseur de face, puis de carrure de menton. Je comprends, fuck all. Okay. J'ai dit, sais-tu quoi? Cette face-là, là, t'avouais plus que moi. Puis si tu trouves ça à ton goût, t'as le dernier.
Je l'avais dit que c'était un gars galant.
Mais ben ça, c'est pas galant, mais je trouve ça cute.
Mais je m'habitue, puis je pense qu'elle avait raison au
t'as
total.
T'as dit les montures, donc t'as choisi plusieurs styles. Tu vas arriver ici.
Ah
tu
non,
vas jouer.
Non. J'ai des solaires qui sont ajustés aussi. C'est un genre de deux pour un. Là,
t'as pas pris des verres progressifs, là?
Comment ça?
Sûr que quand tu vas dehors, ça devient des lunettes de soleil. Puis quand tu rentres, non. Un moment donné, il faut t'attendre une heure avant qu'il revienne
normal. Non, je vais changer.
Tu seras pas Stevie Wonder ici.
Mais c'est vraiment du nouveau au point où tantôt, j'étais au resto, puis là, il mouillait beaucoup. Puis juste avant de sortir, j'étais comme en panique. J'étais avec Véro. Je dis, Véro, qu'est-ce qu'ils font les gens qui ont des lunettes quand il pleut, là?
Mais t'aimes ça parce que... J'en ai, puis j'aime tellement pas... Sur le nez, ça m'énerve. J'ai l'impression d'être prise dedans. Tout a l'air de t'habituer rapidement.
Hey, on m'avait vendu ça comme un calvaire. T'as jamais eu de lunettes? J'ai dit non, j'ai jamais eu de lunettes. Puis tu t'embarques tout de suite avec des progressives que tu vas avoir tout le temps. Ben c'est parce que je me connais. Si je prends des lunettes de lecture, après deux semaines, elles sont brisées. Je me suis assis dessus, je les ai perdues.
Ouais.
La seule façon pour moi de les garder, c'est de les avoir d'en face tout le temps.
Fait que là, c'est une nouvelle étape parce que tu vieillis.
Oui, exactement.
T'as-tu un deuil à faire de ta face?
Et ça, c'est une bonne question parce que j'ai jasé avec ma blonde là-dessus qui est plus jeune, puis je disais, j'arrive à un âge où oui, tu commences à voir certaines choses où ton pic est derrière. Puis moi, j'ai pas joué dans la Ligue nationale de hockey, fait que ce pic-là, il a pas été à 28 ans, tu comprends? C'est la première fois où je constate que j'avais quelque chose d'impeccable. Ma vision, j'étais fier de ça. Je voyais proche, je voyais de loin, je voyais dans le noir comme un chat, j'avais une vision top-notch, là. Et je riais de mes parents qu'en passé 45 ans, ils ont eu besoin de lunettes, puis ils se sont ostinés longtemps. Tu sais, quand tu prends une pause bonhomme avec ton cellulaire... Là,
ouais. Toi, tu le faisais, t'étais rendu là.
Oui, j'étais rendu là, puis c'est quand j'ai commencé à faire lire des petits caractères à ma blonde, parce que j'étais incapable de lire, que j'ai fait « OK, c'est assez
».
C'est assez faux, okay. Vraiment.
Ça te lâchait-tu
que...
des fois, mettons, en fin de journée? T'étais sur ton écran, par exemple, il est rendu 22h, t'as ta journée dans le corps, tu as beaucoup d'écrans, tu lis plein de trucs aussi pour l'actualité.
Ouais.
Puis là, tu commences à te rendre compte que faut que tu vois pas.
Ben au niveau de tout ce qui est pas full lumière, j'avais beaucoup de misère. Ça, c'est 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Puis passé une certaine grosseur de caractère, j'étais rendu incapable de déchiffrer le
plus. Tu t'en viens là, par exemple.
Mais quand tu dis full lumière, je comprends pas. Parce que t'es le gars qui travaille le plus dans la noirceur, t'es le prince des ténèbres de la radio.
Je l'ai été longtemps, mais là j'ai besoin de plus. Si on n'avait pas les fenêtres ici, j'allumerais les lumières. Probablement.
Même avec les fenêtres, tu les allumes souvent. Là.
Parce que dans ton ancienne vie radio, là, moi, j'arrivais de travailler, là, il faisait super beau, super soleil, puis là, je rentrais dans la bâtisse, j'étais tabarouette, perte de luminosité. Puis quand j'arrivais dans le studio après toi, je voyais rien.
Le studio qu'on avait à la base était hyper sombre, puis nous autres, on fermait toutes les lumières. Puis quand il y avait de la lumière qui rentrait par les fenêtres de l'autre côté du corridor, on baissait les toiles. Fait que non.
Vous vouliez bien être de mauvaise humeur.
Oui, je pense que ça aidait pas.
Ah, ben,
franchement, là, oui, t'as juste à pour changer les ampoules.
Là, la prochaine étape, Denis, je vais te la raconter.
Okay? Je suis pas sûr, j'ai le goût, par exemple.
C'est avec tes enfants, parce que là, ça va être un souvenir que tu vas ancrer directement dans le cerveau de tes enfants. Quand ils vont faire de quoi de croche, faut que tes lunettes soient sur le bout de ton nez, puis il faut que tu les regardes, mais
à travers le haut.
Ouais, en haut de tes lunettes.
Plus haut que les lunettes, OK.
Comme ça!
Avec la tête qui descend tranquillement.
Exactement.
C'est bon, j'ai déjà l'air. Il est assez pratiqué. Mais toi, Yann, tu t'en viens là?
J'ai l'air d'un, propriétaire de condo en face de l'Académie Saint-Louis. Hein.
Ah!
Sont encore là, les petits tabarnaks. En train de vivre.
Mais tu commences à regarder ton cell d'une autre manière. Tu t'approches beaucoup de l'écran. Ta feuille, ta... Tu peux t'obstiner. Okay. Ça me fait plaisir de dire que tu fais pas ça si ça te fait vraiment plaisir d'entendre que c'est ça que tu fais.
Pourquoi l'alerte Amber n'a pas été déclenchée? Je peux voir. J'ai une vie, j'ai une vue à 100%. Là. Je sais pas pourquoi tu dis ça.
Ouais, mais c'est écrit gros dans tes sur tes feuilles, là, avec respect. Là.
Regarde, vas-y, prends ça. Là.
Ouais, qu'est-ce qu'il y a?
Mais les, ton bord, là.
Ouais. Mais ça, c'est de loin, ça. Eh mon Dieu, t'es-tu
Quand tu commences à montrer tes dents en regardant...
La face que tu me fais là est pas rassurante, là.
Je vois tout. Okay. Tout est parfait.
Ah oui?
Okay. Impeccable.
Tu nous lirais dans
Parce que la presbytie, qui souvent te pogne à la mi-quarantaine, c'est vraiment lire de près là, les choses qui sont des plus petits caractères. Ah, moi, c'est ça que j'ai. Je ne regarde plus derrière. Maintenant, je suis un bonhomme.
Mais moi, j'ai compris, j'en parle plus.
Mon plus jeune m'a tellement fait sourire parce que mon grand, les changements, il est comme son papa, il aime pas ça ben. Fait que je dis, pis ton papa, il est-tu beau avec des lunettes? Il dit, je suis pas sûr que je vais m'habituer. Et le plus petit est arrivé, il dit, ah, t'as donc ben de l'air beau et studieux.
Mais de l'air.
Ouais, de l'air, juste de l'air.
Ouais.
Mais
au moins, il est déjà dit, t'as de l'air beau et studieux.
Oui,
c'est gentil.
C'est du beau vocabulaire en passant.
Moi, celui qui me ressemble le plus me dit que je suis très laid. Assez souvent.
Ben, vous vous ressemblez donc dans la personnalité aussi.
Mais c'est parce qu'on est en même face.
C'est ça qui arrive. Hein?
Habitue-toi.
Je suis ton père.
Tu vas ressembler à ce dégât-là, mais t'as 40 ans. Hey, on a tous vécu un beau moment hier quand on a appris que Claire Bell était toujours en vie. Incroyable.
On jasait de Anne Guérette quand la nouvelle est tombée. Puis je me disais, on l'a-tu dit trop vite? Parce que ça se peut pas. T'sais? Et on cherchait les scénarios. T'sais? On savait qu'on recherchait une fermière à un moment donné ou quelqu'un qui l'avait peut-être hébergé, peut-être logé. Fait que moi, tout de suite, je suis allé là. T'sais? Bon, elle était chez quelqu'un qui en a pris soin pendant une couple de jours puis qui attendait peut-être un signal, peut-être un membre de la famille, peut-être X, Y, Z. Je m'étais bâti plein de scénarios dans ma tête. Il y a un scénario dans ma tête qui n'existait pas. C'est pas vrai que cette petite fille-là est restée 3 jours dans le fossé. Et pourtant... Cette petite fille-là est restée 3 jours dans le fossé puis a survécu.
C'est la thèse la plus plausible. J'entendais d'autres thèses. Docteur Gilles Chamberlain, qui est psychiatre, qui est le médecin-chef à l'Institut Pinel à Montréal, qui mentionnait qu'elle aurait peut-être pu être aidée par quelqu'un qui l'aurait une nouvelle fois abandonnée. Ça, cette thèse-là est plausible, mais est-ce que toi, là, mettons que tu veux aider une mère qui dit « Hey, moi, là, mon chum me bat, là, garde ma fille, là, puis tu sais, coûte que coûte, tu la gardes chez vous. » Est-ce qu'après ça, tu libères cet enfant-là pour ne pas être dans la merde? Est-ce que tu la libères dans un quelque part dans un fossé?
On a vu l'état de la mère sur des vidéos. C'est pas une personne à qui j'aurais fait confiance de quelque façon que ce soit. La seconde qu'elle aurait déguerpi, j'aurais appelé les policiers.
Oui, hein?
Ah oui, absolument.
Mais la plupart des gens auraient fait ça, tu sais. Mais les images de la petite sont à... Tu sais, moi, cette image-là où on la voit de très près, puis ça a été repris par Québécois, ça a été repris par Radio-Canada, mais tu vois clairement qu'elle est dans la voiture de police. Elle a un œil qui est très vif. L'autre œil qui est amoché, visiblement, est sale. Là. Elle a passé quelques jours dans la nature. Mais 3 ans, Denis, passé toutes ces heures-là tout seul, jour, soir, nuit.
Avec la consigne que ma mère m'a dit d'attendre là, donc elle aurait pratiquement pas bougé du fossé pendant tous ces jours-là. C'est un miracle.
Tes enfants, quand tu leur dis de t'attendre là, est-ce qu'ils t'écoutent?
J'ose croire que oui, pas tout le temps.
Non, à 3 ans.
Je t'avais dit là,
ouais, c'est ça.
Pas là-bas.
À 3 ans, moi, c'est encore pire. Parce que tantôt, j'en parlais avec Pascal. Toi, tu me disais, elle est restée dans le fossé. C'est une thèse tout aussi plausible. Mais je me dis, tu sais, on a fait le fameux vol d'oiseau avec un drone là, à l'endroit exact où elle aurait été retrouvée. À cet endroit-là, c'est des champs à perte de vue.
Ouais.
Quelques petites forêts ici et là. Puis il y a un gros cours d'eau à St. Albert là, qui passe. Comment elle a fait pour boire? Elle a certainement bu de l'eau. Est-ce qu'elle a trouvé un ruisseau ou elle est allée directement à la rivière, qui est une très grosse rivière? 3 ans. Il n'y a personne qui était sur la 417, qui regardait à gauche puis à droite, puis qui a vu ce petit bout de brin de bébé-là de 3 ans se promener. On dirait que tout ça est dur à croire.
Oui, Oui, puis c'est pour ça que j'ai utilisé le mot miracle à plusieurs reprises sans m'en rendre compte hier. Je crois pas au miracle, mais ça, bordel, c'en est un. Puis oui, il nous manque des parties de l'histoire. Mais même quand on va réussir à mettre tout ça bout à bout, on parle d'une petite fille qui a survécu à la négligence criminelle de sa mère. Quel que soit le moyen, quelle que soit la façon, quand on voit des parents dans un état comme celui-là, 99 % des cas, ça finit mal. On cherchait d'un fossé. Moi, quand j'entends ça de la part des porte-paroles des policiers, on cherche d'un fossé. Dans ma tête, on cherche pas quelqu'un en vie. Là.
Ben non.
On cherche un cadavre.
Les plongeurs de ben oui. La Sûreté du Québec qui étaient à siphonner le fond des rivières pour être sûr et certain de ne rien rater.
Puis on le sait, là, dans des cas comme ceux-là, tu rajoutes une heure puis les chances de survie. Je sais qu'il existe des calculs mathématiques là, qui disent, mettons, tes chances de survie baissent de 35 % à chaque heure. Je ne sais pas comment ça marche, mais c'est une enfant de 3 ans qui a réussi à survivre tout ce temps-là. Il y a des adultes qui n'auraient pas toffé.
250 policiers de la Sûreté du Québec qui ont été mobilisés. C'est plus de 120 policiers qui étaient attitrés juste à la visualisation des caméras, des images vidéo, dont le drone. Imagine-toi, là, la personne regarde les images sur le drone, puis tout d'un coup, elle voit un point. Puis là, ça fait quelques jours, là, elle était comme toi puis moi, elle dit « c'est sûr qu'on cherche un cadavre », puis là, elle voit un point. Puis elle dit, c'est quoi ce point-là? Ça peut pas être ça. Non, ça.
Ça bouge.
C'est impossible. Voyons donc, ça. C'est-tu un chien? C'est-tu un coyote? Non, il y a un point. Ça ressemble à un enfant. Hey, les gars, c'est elle.
Ça t'imagines? Doit. Le déclic mental. Parce que t'as le signalement, t'as le descriptif, tu sais qui tu cherches. Mais à partir du moment où tu la vois sur le radar puis que tu la vois bouger, on va dire comme toi, là, ils ont dû faire toute l'énumération avant de se rendre. Là. C'est un animal, c'est un chevreuil, c'est quelque chose, c'est ci, c'est ça. Elle est morte, elle bouge, tabarnouche. Il y a quelqu'un qui nous a texté hier, puis d'ailleurs, ça, c'est un phénomène qui me montre qu'il nous reste encore un peu d'humanité à l'intérieur, mais le nombre de réactions émotives hier... pendant l'émission, pendant le retour de
c'est
gens
beau.
Qui... Oh, oui, oui, ça a fait du bien à tout le monde, cette nouvelle-là, hier, puis il y a quelqu'un qui l'illustrait en disant « Hey, au total tout, on va se le dire, c'est bien mieux qu'une coupe Stanley. » Oui, c'est bien mieux qu'une coupe
c'est
Stanley.
C'est collectif à un point. Oh, là, oui, il y a des gens qui ont arrêté leur meeting super important parce qu'il y avait les alertes, mettons, sur leur cellulaire de nouvelles, puis on dit hey, « Excusez, des gros meetings. » C'est ce que je me suis fait dire, là. « Excusez, 2 secondes. » On arrête tout.
Ils l'ont retrouvé.
Ils l'ont retrouvé.
En vie.
Puis ça a fait un bon 1, 2, 3, 5 minutes de tout le monde festoie ensemble.
Tu sais, pendant une heure, c'est une nouvelle qu'on a répétée à de nombreuses reprises. Puis c'est une heure où beaucoup de gens embarquent dans leur voiture. Fait qu'à chaque fois qu'on le disait, il y avait des gens qui l'entendaient pour la première fois. Puis c'était tout le temps le même genre de réaction. Puis oui, ça s'est peut-être chicané en bas d'une photo, ces réseaux sociaux. Ça s'est peut-être traité de nom en dessous d'un post de François Legault. Le monde étant le monde. Mais je pense que collectivement, les gens qui leur restent un peu d'humanité et une petite âme au fond d'eux-mêmes, c'est des gens qui ont juste souri, qui ont pensé à leurs proches, qui ont pensé à leurs enfants, puis qui ont fait fuck yeah, passe à travers.
Je parlais avec un ex-enquêteur au crime majeur de la Sûreté du Québec ce matin, puis il s'est permis de nous dire « Hey, je vais vous écouter, mais moi, ça ne me tente pas de passer en ondes, mais je vais vous dire ce que moi, je ferais suite à ce qu'on a réussi comme opération. On doit revoir absolument les critères de l'alerte Amber ou trouver autre chose, un peu ce qu'on mentionnait il y a de ça quelques jours, c'est-à-dire le gouvernement était capable de nous rejoindre pour nous dire « Allez-vous coucher, il est 10 heures, c'est la pandémie. »
Le fait qu'elle était en vie...
Ouais.
Ça rend encore ça plus indispensable, je pense.
Exact.
T'sais, de prendre conscience que tout ce temps-là, cette petite fille-là était en vie et elle attendait que quelqu'un la trouve. Là.
La jeune Claire va passer une entrevue niche. On me dit que les policiers savent c'est quoi. C'est N-I-C-H-D.
C'est quoi?
Soit non suggestive. Donc, c'est une entrevue non suggestive. C'est réalisable même si elle n'a que 3 ans. Et souvent, on y va avec des dessins. Les psychologues judiciaires devraient être présents sur place ou encore virtuellement pour assister les enquêteurs lors de cet interrogatoire-là ou lors de cette entrevue avec la petite. Il y a quelques années, il y a eu dissolution des équipes des mesures d'urgence sous l'ère Mario Bouchard qui ont pour la plupart été retournées en patrouille. Ce dossier remet en perspective l'importance de cette escouade car plusieurs postes de la MRC ont été sollicités pour participer aux recherches sans que les policiers aient de formation requise. Mmh. Fait que les gars puis les filles essayaient tant bien que mal de faire des recherches, mais ils n'ont pas les formations nécessaires pour faire ce type de recherche-là.
Un gars qui a de l'air de savoir de quoi il parle.
Son point numéro 4, beaucoup de hold-back dans ce dossier, des informations retenues par les enquêteurs pour ne pas nuire à l'enquête. Bon, il dit ça peut vous aider, ça me fait plaisir de vous aider, mais moi j'ai aimé qu'on fasse appel très rapidement à la population. Ça détruit en rien la réputation de la police. Mais quand vous avez rien, admettez-le, ouais. Demandez l'aide de la population parce que l'objectif c'est pas de bien paraître, l'objectif c'est de trouver la petite ou le petit qui est disparu.
Ça a tellement été long. Puis on se questionnait sur l'alerte Amber ou pas, puis là, les critères, puis toute la patente. Moi, je me disais, ils savent qu'elle est morte. La raison que je voulais pas dire en ondes, c'était ça. Mm-hmm. Ils savent qu'elle est morte. Ils savent que la mère l'a tuée, puis ils cherchent un corps. Puis c'est pour ça qu'ils font pas appel à la population, puis qu'ils font pas, ils cherchent quelqu'un de mort. Là, rétroactivement, c'est extraordinaire. C'est un miracle, elle est en vie, elle est saine et sauve. Mais il ne faut pas que ça empêche les questionnements, justement, concrètement. Là.
C'est la première chose que j'ai dite ce matin.
Parce qu'il faut considérer que c'est un miracle. Il faut considérer que
on
aurait pu et on aurait dû faire mieux. On aurait dû la trouver avant, avec tous les moyens technologiques qu'on a à notre disposition, que ce soit pour ramasser le plus grand nombre de personnes possible, pour procéder autrement. Si c'est un manque de formation, c'est des choses qu'il faut adresser.
Je suis contente que tu en parles, Denis, puis que pour toi, ça soit important à marteler à la radio, parce que, ça veut dire notre tête a computé de la même manière. On est tellement habitués que ça ne travaille pas en amont dans certains dossiers avec le gouvernement, avec des ministères, des ci, des ça, qu'on en a tellement échappé pour des niaiseries. On en avait fait état dans le rapport du coroner des petites carpentiers puis qu'il n'y a rien qui a bougé. Moi, j'ai juste peur. Et tu comprendras que c'est la plus belle chose qui est arrivée. Là. Je voulais rien d'autre que ça qui arrive. Mais j'ai juste peur que par ce succès-là, on oublie de travailler sur des choses importantes.
Moi, ce serait le début de la conversation. Considérons ensemble qu'il vient d'arriver un miracle. Qu'est-ce qu'on aurait dû et qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux?
Exact, exact. Ils se sont fait brasser le cul avec les petites carpentiers, se sont fait prendre à mentir.
Ouais.
Puis avec l'enquête du coroner, ils se sont fait brasser. Je pense qu'ils ont appris de ça. Moi, le travail qui reste à faire, c'est de prendre un accord avec le gouvernement du Québec. D'après moi, ça ne devrait pas être compliqué. Et de donner aux services policiers, tant municipaux que provinciaux, le pouvoir que s'il y a quelque chose qui se passe avec un enfant et on est persuadé que la vie de l'enfant est en danger, on pèse sur le piton, mon Léon. Puis ça peut être sectoriel, ça peut être
juste
la grande région de Montréal parce que l'enfant est disparu au centre-ville. Ou ça peut être
cherche.
La grande région de Québec ou à Trois-Rivières ou Drummondville. Ils sont capables d'être sectoriels, mais il faut qu'ils nous rejoignent le plus rapidement
Est-ce qu'on
possible.
Peut enlever la portion enlèvement de l'alerte Amber? Est-ce qu'on peut enlever c'est automatique de chercher une voiture. T'sais, y a-t-il une possibilité de juste donner des informations, si on en a, que c'est une voiture ou autre, si on en a, on le met, mais s'il n'y en a pas, on oublie ça, puis on sort des cadres.
Quand une vie est en jeu, moi, je rentrerai en mode proactif le plus rapidement possible. Puis, effectivement, on a les moyens technologiques de rejoindre les gens. Qui va être contre ça? Puis la personne qui est contre ça, ben moi, je vais me permettre de la juger. Là. Quand on cherche une enfant disparue puis que sa vie est en jeu.
Puis, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais je regarde les sondages actuellement pour la Coalition Avenir Québec. Là.
Ouais.
Puis d'amener quelque chose rapidement comme ça, ça pourrait leur faire du bien. Là.
Quelque chose qui va, je dirais, regrouper l'unanimité. Ils ont désespérément besoin de ça, oui, effectivement.
Puis pourquoi pas l'appeler Claire, ce petit signal-là?
L'alerte Claire.
L'alerte Claire.
Oui, ça a du sens.
Ça serait malade, hein? Ouais. Charge 10 %. Okay. Commission Galant, scandale! L'ex-bras droit de Legault savait que les coûts de sa clique explosaient. Alors pourquoi Legault n'était pas au courant de ça? On a appris ça dans les dernières heures. Yves Ouellet était au courant des dépassements de coûts dans le dossier de sa clique dès le 7 septembre 2022. Ce jour-là, Denis Marcellet, qui était président directeur général de la Société d'assurance automobile du Québec, rencontre M. Ouellet dans son bureau pour faire un état de la situation. Il est surtout question des budgets. M. Marcellet informe Ouellet qui manque 222 millions de dollars pour livrer la phase 2 du projet et que deux scénarios sont envisagés. Donc, le premier scénario consiste à publier l'avenant de 222 millions au complet dans le système électronique d'appel d'offres du gouvernement. Puis le deuxième, c'est le morceler, donc le séparer, pour être sûr et certain que ça paraisse moins mal. Et comme le secrétaire général Yves Ouellet relevait directement du conseil exécutif, le ministère du premier ministre Legault, la SAC écrira plus tard dans un document que le premier scénario comporte un risque politique et médiatique élevé. La raison, en septembre 2022, la campagne électorale bat son plomb au Québec.
Voilà.
Elle proposera plutôt à son conseil d'administration de morceler le 222 millions en plusieurs avenants. Yves Ouellet a été nommé en 2023 à la tête de l'Autorité des marchés financiers. Le témoignage de Marcellet se poursuivra aujourd'hui.
À la lumière de ces nouvelles informations, il n'y a plus personne qui va réussir à me faire croire que François Legault n'était pas au courant.
Tout ça était politique.
En pleine campagne électorale.
Oui. Ben oui, tout ça était politique.
Et voilà. Regarde-moi pas tomber en bas de ma chaise.
Fait qu'ils en ont besoin du questionnement sur l'alerte Amber.
Oui.
Ça va-tu? Oui, Pascal?
On a
notre ami? Oui. Jeff Fortin qui sort de la rencontre avec le maire de la ville de Québec, Bruno Marchand. Salut Jeff!
Salut, comment ça va?
T'es dans le pit stop avec Denis, t'as assisté à la conférence de presse de Bruno Marchand ce matin. De quoi il était question, puis qu'est-ce qui t'a surpris là-dedans?
Bien, c'est sûr que Bruno Marchand parlait du projet de SRB+ de Sam Hamad, et sans surprise, bien, il est allé à l'encontre de ce projet-là, en mentionnant notamment que c'était un projet d'apprenti sorcier, que c'était monté par des bénévoles qui n'ont aucune expertise par rapport aux gens là qui ont fait le plan cité et qui ont fait les études depuis 20 ans, qui mènent un tramway, alors... C'était l'essentiel là, du message là, de Bruno Marchand.
OK. Ben, je salue toutes les gens qui font du bénévolat. Sachez que Bruno Marchand semble vous reconnaître.
En effet. Non, mais...
Faut juste pas oublier que Sam Hamad est ingénieur de formation et son bras droit qui était avec lui hier lors de l'annonce est aussi un ingénieur. Là, donc, qu'il soit payé aux bénévoles, d'après moi, ils doivent faire leur travail assez efficace. Là.
Oui, du côté de Daniel Lessard, faut pas oublier qu'il a participé au plan de mobilité durable de 2011 de la Ville de Québec. Il a été gestionnaire au niveau des infrastructures de la Ville de Québec jusqu'en 2022, au moment de sa retraite, même directeur. Alors, c'est pas n'importe qui, là. C'est pas un petit coun qui a décidé de s'asseoir. Là. Je vais faire un comparatif. C'est pas les petits messieurs sympathiques que j'ai rencontrés quand je suis allé là, à la présentation des corridors du troisième lien à Lévis, qui, eux, me sortaient un nouveau corridor de leur valise. Là. On n'était pas là du tout.
Y a-t-il d'autres choses qui t'ont surpris? On me dit que le maire Marchand, tout ce qu'il veut, c'est continuer d'avancer dans le dossier du tramway. Puis il veut pas de bruit sonore autour, si ce n'est que ce projet-là.
Exactement. Puis honnêtement, l'épine que Bruno Marchand a dans son pied à l'heure actuelle, c'est le fait que le gouvernement n'a jamais donné son aval pour le plan cité au complet. Alors lui, projet de Sam Hamad, il dit toujours ouais, mais voyons donc, c'est bien mieux une colonne vertébrale, un réseau structurant tramway qu'en SRB parce que ça a plus de capacité. Mais le plan cité à l'heure actuelle, comme la Caisse de dépôt l'a prévu avec trois trajets de tramway, des SRB, des parcours express qui se rabattent sur ce tramway-là, il y a seulement le trajet numéro un à Hauteville qui a été accepté de la part du gouvernement et on parle d'un projet évalué à l'heure actuelle à 7,6 milliards. Tandis qu'avec le projet de Sam Hamad dans SRB, c'est 4,2 milliards pour desservir la totalité de la ville de Québec. Et ça, quand on le questionne là-dessus, ben c'est juste, j'ai confiance, Mark Carney a dit qu'il allait avoir de l'argent de plus en 2026, Jonathan Julien me dit qu'il voulait le plan cité. C'est beau des oui-dire, mais c'est rien de canné comparativement là, à ce que Sam Hamad a présenté qui pourrait se canner plus rapidement.
Jeff, il y a des chiffres qui sont sortis ce matin concernant le transport en général dans la région de Québec. Il y a une stabilisation relative autant sur les gens qui prennent le transport en commun que les gens qui font du transport inter-rive et ainsi de suite. Puis on utilise ces chiffres-là, en tout cas des spécialistes utilisent ces chiffres-là pour dire le troisième lien, on n'en a pas besoin. Est-ce qu'on peut utiliser les mêmes chiffres pour faire en sorte que le projet de Sam Hamad soit viable, même s'il n'y a pas la même capacité qu'un tramway? Et est-ce que le maire Marchand doute de l'application physique du plan de Sam Hamad? Je comprends qu'il aime mieux le tramway puis qu'il veut le prioriser, mais au niveau logistique, au niveau ingénierie, au niveau applicabilité, est-ce qu'il remet ce projet-là en doute?
C'est clair qu'Origine Destination vient également là, faire une jambette au projet de tramway parce que avec 8,9% de diminution au niveau du transport en commun, ouais. Et quand on regarde les chiffres d'achalandage du RTC à l'heure actuelle en 2024, ça correspond à ce qu'on avait en 2015. Et en 2015, à ce moment-là, on regardait pour un SRB et on disait que ce SRB-là devrait être transformé en tramway en 2040. Donc, si ces chiffres-là de 2025 correspondent à ceux de 2015, ça veut dire que on pourrait faire un SRB. Ça ferait en sorte qu'on absorberait la capacité de gens qui sont en transport en commun et l'augmentation qu'on prévoit. Et ça donnerait la latitude au SRB de le faire jusqu'en 2050 avec l'augmentation de la démographie et des déplacements de la ville de Québec. Alors, c'est clair que ça, Bruno Marchand essaie de se défendre en disant « Non, l'augmentation de la démographie est plus élevée. Non, mais là, les gens ont un appétit pour le transport en commun. On a des hausses significatives en 2024 et en 2025. » Mais la donnée origine-destination vient faire extrêmement mal au propre approche.
Les statistiques ne mentent pas. Certains politiciens, oui. Parce que tu me dis qu'on est à peu près rendu au même niveau que 2015. Toi qui as travaillé au RTC, oui. Je profite constamment du fait que tu as travaillé au RTC. Y a-tu plus d'employés aujourd'hui qu'en 2015?
Il y a nécessairement plus de cadres.
Est-ce que ces employés-là sont payés plus cher qu'en 2015?
Ben oui, parce que le coût de la vie a augmenté. Là. Fait que si je regarde, moi, le poste que je faisais au RTC... Puis là, je n'avais pas décidé de faire plein d'autres choses, dont de la radio. Je peux te dire une affaire. J'aurais un salaire à peu près de 135 000 $.
Est-ce que les budgets pour ce qui est du RTC ont augmenté depuis 2015?
Ils ont augmenté significativement parce qu'en 2015, on parlait peut-être quoi d'un budget, puis là, je vais y aller de mémoire, là, mais un budget de 180, 185 millions. Et là, on était aux alentours de 240.
Est-ce qu'on se rend plus loin avec les autobus du RTC depuis 2015?
Non, on a créé quelques nouveaux parcours métrobus, mais en tant que tel, là, t'sais, y a pas eu de révolution majeure là, du réseau là, comme on avait vécu là, justement là, au début des parcours 800 et 801.
Donc avec toutes ces centaines de millions investis, avec tous ces employés qui ont été embauchés, des employés qu'on a de plus aujourd'hui qu'on avait en 2015, avec les parcours qui ont été améliorés, avec les fréquences qui ont été améliorées, avec les abris d'autobus qui sont hallucinants, un abri d'autobus maintenant, ça peut valoir quoi? 2 millions de dollars? 1 million de dollars, tout dépendant où vous êtes? Là.
Ouais, et ils sont tempérés et non chauffés, là, j'aimerais le dire. Là, c'est même pas chaud.
Tu sais, quand tu prends un abri d'autobus à 2 millions, tu le regardes, tu disais un peu, un panneau numérique, un bloc de béton, des fenêtres autour, un toit, une petite monture, 2 millions, puis tu regardes une maison à 2 millions.
Ouais, c'est ça, mais c'est un feu de circulation rendu à 1 million à Longueuil.
Non, mais tu comprends-tu, malgré tout l'argent qu'on a investi depuis 10 ans, il y a 10%...
On n'augmente pas l'achalandage.
Il y a 10% de gens de moins... Puis on est devenu comme un super de bon employeur pour la ville de Québec parce qu'on a embauché.
Mais t'as entièrement raison. Tu sais, normalement, avec les investissements qui ont été faits dans la RTC, origine, destination, je devrais regarder ça puis dire, hey, Colin, il y a 10, 12, 15 % de plus de gens qui prennent le transport en commun. Puis en même temps, c'est ce qui est questionnant parce que, tu sais, moi, quand on me dit, hey, avec le tramway, là, on va aller chercher entre 8 à 11 de plus de gens dans le transport en commun. OK, attends une minute. Avec toutes les améliorations que tu as faites depuis 10 ans, tu as une baisse de 10%.
Il l'explique comment, ça, le fait qu'on dépense constamment plus, que le RTC n'est même pas capable d'arriver dans son budget, puis qu'on arrive avec un gros dossier pour la Ville de Québec qui n'est pas capable de gérer, qu'on a confié au provincial. Bon, on ne sait pas trop la part qu'on va payer pour la Ville de Québec. On ne sait pas trop comment le provincial va payer pour le tramway.
On l'explique souvent en disant que c'est normal des déficits dans le transport en commun. Ouais. C'est souvent la ligne qu'on
utilise. Alors qu'il y a une loi qui existe.
C'est sarcastique. Ben, c'est vrai ce qu'ils disent.
Il y a une loi qui existe et pas supposé d'en faire des déficits. Là, y a-t-il une grève qui s'en vient, Pascal?
Ce matin, on a reçu, oui, effectivement, communiqué pour des négociations au RTC. Fait qu'en plus de tout ce qu'on vient d'évoquer, ben, y a aussi les salariés d'entretien du RTC qui ne semblent pas nécessairement contents de tout ce qui se passe. Débrayage de 10 jours qui serait déclenché le 4 juillet. Regardez, c'est quoi au calendrier le 4 juillet? Ouais. Donc, le but, ce ne serait pas de faire la grève à tout prix, mais ce serait de faire pression à la ville pour la période la plus achalandée de l'année. Là, on fait ce fort pour en arriver rapidement à un règlement satisfaisant pour les deux parties. C'est ce que le président du syndicat disait dans un communiqué ce matin.
Merci, Jeff Fortin. Tu viens dans le retour tantôt, j'imagine?
Yes.
Je viens faire un petit tour.
Bon, ça fait du bien de t'entendre le midi, hein? Pas juste dans le retour.
Merci. Yes.
Hey, Jeff. Good job. Jeff Fortin qui était à la conférence du maire Marchand. Donc, il y aura des extraits audio du maire Marchand de cette conférence-là tantôt dans l'émission de Denis. Puis nous, ben, dans les prochaines minutes, on va recevoir Sam Hamad.
Oh, yes.
Qui va venir faire.
L'apprenti sorcier lui-même.
Ben oui.
Abracadabra.
Qui fait faire du travail d'ingénierie par des bénévoles.
Vous le savez, hein, si vous n'avez pas de salaire, vous travaillez mal.
C'est ça. Wow. Midi 29, courte pause, on revient.